Le journal Pierre Veil, bonsoir.
Bonsoir à tous. La France confrontée au coronavirus, les écoles fermées dès lundi, mais tout le monde reste au travail au sein de l'éducation nationale. Des enseignants seront bien présents dans les établissements scolaires. Précision de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale. La prise d'anti-inflammatoires peut aggraver l'infection au coronavirus, affirmation du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui est aussi médecin neurologue. Conséquence de l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, un samedi étrangement calme à Paris, près des lieux touristiques. Le patron de la Banque publique d'investissement promet d'aider avec du cash les entreprises sinistrées par l'économie au ralenti. Un premier cas de contamination dans une prison à Fresnes, un détenu âgé de 74 ans. Aux États-Unis, la pandémie inspire les délires des sites conspirationnistes. Paris-Nice, remporté par l'Allemand Maximilian Schachmann, la suite de la saison cycliste menacée en raison de l'épidémie, notamment Paris-Roubaix. Nathalie Péchala, élue présidente de la Fédération française des sports de glace, ses objectifs, redorer l'image de la fédération et retrouver la confiance des adhérents.
France Inter.
Conséquence de l'épidémie de coronavirus, dès lundi, les écoles seront fermées. 13 millions d'élèves vont rester chez eux. Les familles ont tout le week-end pour s'organiser. Le monde éducatif, lui aussi, s'organise, se mobilise. Mathilde Dehimy, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a donné des précisions cet après-midi. Les écoles ne seront pas vides lundi.
Non, et ceux qui seront en classe en premier lieu ce lundi, ce sont les professeurs. Du moins, une partie d'entre eux, explique Jean-Michel Blanquer.
Le principe est l'ouverture de l'établissement pour les adultes, c'est-à-dire qu'un professeur qui souhaite venir doit pouvoir venir, bien entendu, et le chef d'établissement va demander à certains de venir en fonction de certains critères. Ceux qui restent chez eux sont notamment ceux qui ont un enfant à garder et ceux qui ont un problème de santé qui justifie de ne pouvoir venir.
Les professeurs se verront pour des réunions, mais surtout pour faire cours à certains élèves en primaire et au collège seulement. Ce sont les enfants des personnels soignants au sens large, médicaux et paramédicaux, en ville, en hospitalier et en EHPAD. Ces enfants seront en classe s'il n'y a aucune autre solution pour les garder, insiste Jean-Michel Blanquer.
Les parents concernés pourront se rendre dans les lieux de scolarisation habituels de leurs enfants. Il leur sera demandé de fournir une photocopie de leur carte professionnelle ou à défaut une fiche de paye de leur établissement employeur. L'accueil des enfants sera réalisé durant les horaires habituels de fonctionnement des écoles et des établissements scolaires. Les enfants seront accueillis par ces groupes de 8 à 10 en veillant à favoriser une cohérence pédagogique au sein des groupes.
Alors tout ça va s'organiser au fur et à mesure, en fonction aussi du nombre d'élèves. Si vous êtes concerné, il faut prévenir au plus vite ce week-end son école ou son collège. Ce dispositif est lancé lundi, sauf pour les premiers foyers Oise et Morbihan. Là, ce sera mardi. Un mot aussi des vacances, les vraies vacances, celles de printemps. Les colonies de vacances, les accueils périscolaires et extrascolaires sont d'ores et déjà annulés.
Mathilde Dehimy, les chiffres de l'épidémie chez nous démontrent qu'elle s'accélère. 800 contaminations et 18 décès ces dernières 24 heures. Au total, 3661 personnes sont touchées par la maladie. On compte 79 morts. Des mesures ont été publiées aujourd'hui au journal officiel. Interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. Réquisition de nouvelles catégories de masques pour les professionnels de santé et les malades. De nombreux lieux publics sont fermés. À Paris, des musées, le Louvre, Orsay, de grands monuments, la Tour Eiffel, le château de Versailles, mais aussi des salles de spectacles et parcs d'attractions, Disneyland par exemple. Les cinémas peuvent rester ouverts s'ils n'accueillent pas plus de 100 personnes par salle. Clairement, le pays tourne au ralenti, moins de monde dans les rues. Yann Gallic, bonsoir.
Bonsoir.
Un samedi plus calme que d'habitude à Paris, notamment aux abords des grands sites touristiques.
Et au pied de la Tour Eiffel, justement, les touristes se font rares, très rares même. Vous le disiez, le site est fermé au public. Les vendeurs de souvenirs attendent désespérément les clients, tout comme Mylène. Cette foraine est la gérante du grand manège installé devant la Tour Eiffel.
Normalement, j'ai du monde, mais là, il n'y a personne. C'est la première fois que je vois ça. Il n'y a pas de touristes, il n'y a plus personne. Il y a deux, trois enfants qui se promènent et puis c'est tout.
Et vous allez faire quoi si ça dure?
On ne sait pas. On est tout seul, on est indépendant. Personne ne nous rembourse, personne ne nous fait quoi que ce soit. Alors on est dans la merde. Mais il faut faire avec, c'est comme ça.
Sur la Seine, les bateaux-mouches sont presque vides. Idem pour les bus touristiques qui proposent des circuits dans la capitale. Ces derniers jours, la fréquentation a été divisée par 10, explique Lagdar, chauffeur de car à Paris depuis 10 ans.
J'ai pris mon service ce matin à 9h. Pour vous dire, en temps normal, je dois quand même voir
entre 80 à 150 personnes. Ma journée d'aujourd'hui, je dois être à une quinzaine de personnes. C'est une période où on est censé bien travailler. Là, on n'a aucune réservation pour les vacances de Pâques. Entre annulation et non-réservation, c'est catastrophique.
Alors, faute de clients, l'employeur de l'Agdar arrêtera son activité à partir de lundi. Tous les chauffeurs de la compagnie vont donc se retrouver au chômage partiel.
Reportage Yann Gallic. La RATP et la SNCF se préparent à une offre réduite de transport la semaine prochaine. Certains employés devront rester chez eux pour garder leurs enfants privés d'école. Dans le sud-ouest, les grandes salles de spectacle sont fermées, les concerts de musique classique annulés, tout comme certains festivals. Un secteur résiste encore, les restaurants, mais ils doivent s'adapter aux directives du gouvernement. À Toulouse, Stéphane Iglesis.
Salle bien remplie, comme tous les midis, ce patron a eu la mauvaise idée de regarder ses mails ce matin. Il y a trouvé celui de son organisation professionnelle qui lui demande, comme le gouvernement, de limiter le nombre de couverts à 100 personnes, pas plus, personnel compris. Jérémy a déjà pensé aux conséquences sur son chiffre d'affaires et sur l'emploi.
On va limiter une partie de la salle pour accueillir jusqu'à 100 personnes effectives. Normalement, nous effectuons à peu près 150 à 180 couverts tous les midis, donc un personnel en conséquence en salle et en cuisine pour ceci. Et donc, à mon avis, on va devoir mettre peut-être quelques personnes au chômage technique.
Corinne, une cliente fidèle, ne va pas arrêter de vivre avec ce coronavirus.
C'est assez incompréhensible parce qu'en fait, on n'est pas les uns sur les autres. On est venu parce qu'on s'est dit, si après ils ferment, il faut qu'on profite un peu.
Quant à Philippe Bello, qui s'occupe de la branche restauration de l'UMIH31, il s'attend à des mesures plus dures prochainement.
Et on sait tous très bien qu'une fois les élections municipales passées, on va prendre la deuxième vague. C'est-à-dire que là, on sera à moins à 50 ou à rien.
Les restaurateurs attendent désormais du gouvernement un effacement des dettes sociales et fiscales pendant la crise du coronavirus, au lieu d'un simple étalement comme prévu. Toulouse, Stéphanie Glazis, France Inter.
La restauration sévèrement touchée, on vient de l'entendre, mais d'autres secteurs souffrent. Le directeur général de la Banque publique d'investissement, la BPI, Nicolas Dufourcq, promet une aide financière. Il l'a dit ce matin sur France Inter dans On n'arrête pas l'écho avec Alexandra Ben Saïd.
Là, on est dans, pour certains secteurs, quelque chose qui ressemble tout à fait à une crise cardiaque. C'est-à-dire que vous avez des secteurs comme l'hôtellerie, l'événementiel, les autocaristes qui, du jour au lendemain, n'ont plus du tout de clients. Et se pose la question, pure et simplement, de la fermeture temporaire. La fermeture presque administrative, j'ai envie de vous dire. Hein. Et donc, beaucoup de chômage partiel et des besoins de cash tout à fait considérables. Donc, il est évident que la détresse de ces entrepreneurs est profonde, hein, très très profonde. Et donc, on a eu hier plus de 1000 appels. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? C'est très simple, il faut un pont aérien de cash.
Voilà, je dirais. Le directeur général de la Banque publique d'investissement, Nicolas Dufourcq. Et puis ce matin, un tweet d'Olivier Véran, une mise en garde du ministre de la Santé. Olivier Véran, il est aussi médecin, neurologue. Une mise en garde contre la prise d'anti-inflammatoires. Sophie Bécherel, bonsoir.
Bonsoir.
Ces anti-inflammatoires pourraient aggraver l'infection au coronavirus?
Oui, c'est la Société française de pathologie infectieuse qui a alerté le ministre, lequel, sur Twitter, a relayé cette mise en garde, vous l'avez dit. Il est depuis longtemps connu que l'ibuprofène, le kétoprofène et plus largement les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont déconseillés pour les maladies virales. Ils provoquent des complications graves. Des personnes atteintes des premiers symptômes du coronavirus, fièvre notamment, en ont pris, ce qui aurait détérioré leur état. Alors même que ce sont des personnes jeunes et en bonne santé par ailleurs. On ne sait pas comment le lien entre les deux informations, Covid-19, ibuprofène, ni à quel moment ce lien a été fait, mais il l'a été. Du coup, le ministre, dans un tweet peu explicite, a relayé l'alerte et très vite, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a fait une mise au point. Contre la fièvre et les douleurs, c'est du paracétamol qu'il faut prendre à raison de 3 grammes par jour pour un adulte. L'important surtout, c'est de ne pas faire d'automédication. Ne cherchez pas dans votre pharmacie ce qu'on a pu vous donner lors de la dernière angine ou bronchite. Consultez un médecin, demandez un avis. Quant aux personnes qui prennent au long cours un traitement à base d'anti-inflammatoires ou de corticoïdes, les asthmatiques par exemple, pas de panique, n'arrêtez pas non plus votre traitement d'un coup. Là encore, demandez conseil à un médecin.
Sophie Bécherel, la secrétaire d'État à la transition écologique Brune Poirson a été testée positive au coronavirus. Son état de santé ne présente pas de signes inquiétants, dit son entourage. L'ensemble de ses contacts récents, l'ensemble a été répertorié et elle est désormais, Brune Poirson, en quatorzaine. Une première contamination en milieu carcéral. Un détenu de la prison de Fresnes, un homme de 74 ans, il a été testé positif. Les précisions de Jean-Christophe Petit, il est surveillant à Fresnes, secrétaire local du syndicat UFAP-UNSA. Il demande des produits pharmaceutiques pour protéger les gardiens dans leur travail.
Il avait signalé des problèmes de santé, une gêne respiratoire. Donc dès le départ, il a été placé en isolement médical. Et en fait, au final, il s'est avéré que voilà, il était atteint du coronavirus. Donc ouais, il a été isolé pour éviter d'être en contact avec les autres personnes détenues. Les personnels qui devaient rentrer en contact avec lui devaient porter un masque. Et ça, c'est un protocole que nous avons en place, même en cas de tuberculose et tout. Dès qu'on a une suspicion, le personnel est toujours doté de moyens de protection. Donc les personnels, forcément, ils s'inquiétaient, parce que les personnels aussi ont des familles. Là, nous avons eu une réunion avec le directeur pas plus tard qu'hier, où on avait demandé notamment pas mal d'avancées, la mise en place des solutions hydroalcooliques, de savon et tout. Donc les personnes, pour l'instant, ils restent relativement confiants.
Propos recueillis par Julien Pasqualini. À l'étranger, plus de 1500 nouveaux cas de coronavirus en Espagne ces dernières 24 heures. On compte au total 5753 contaminations et 193 morts. Deuxième pays le plus touché en Europe après l'Italie, l'Espagne devrait être bientôt en état d'alerte. Le Premier ministre, le socialiste Pedro Sanchez, réunit en ce moment son gouvernement qui pourrait décider un vaste plan de confinement. À Madrid, Marie-Hélène Ballesteros.
D'après le quotidien El País, ce sont les divergences entre les ministres socialistes et ceux de Podemos qui ont compliqué la situation. Des différences de point de vue en ce qui concerne les mesures économiques à adopter. Les ministres de Podemos exigeraient des aides aux travailleurs beaucoup plus fortes pour tous ceux qui vont se retrouver au chômage ou sans travail à cause de cette crise sanitaire. Concernant les mesures de restriction, même si elles n'ont pas encore été officiellement annoncées, on sait déjà selon les médias espagnols qu'elles entreront en vigueur lundi prochain à 8h du matin. Le premier objectif est de limiter la circulation des personnes aux déplacements indispensables, comme l'achat d'aliments, de médicaments ou de produits de première nécessité, mais aussi les déplacements vers un centre médical, vers le lieu de travail ou le domicile, ainsi que l'assistance aux personnes âgées ou handicapées. Et en attendant cette batterie de mesures, la police a déjà commencé à intervenir sur le terrain, car beaucoup de Madrilènes n'ont toujours pas compris les consignes des autorités de rester chez eux. Ils étaient ainsi très nombreux ce matin à s'être déplacés dans les parcs et jardins et vers les montagnes situées au nord de la capitale. Munis de leurs mégaphones, les policiers ont dû faire évacuer les Madrilènes en leur demandant de regagner leur domicile. Madrid, Marie-Hélène Ballesteros, France Inter.
Et en Italie, la progression de la maladie est impressionnante. L'Italie annonce ce soir 21 157 cas de contamination contre 17 660 il y a 24 heures et 1441 décès. L'Italie critique le manque de solidarité de l'Union européenne, même si Bruxelles a décidé hier de débloquer 37 milliards d'euros pour gérer globalement cette crise. La Chine, en tout cas, est présente pour aider l'Italie avec des équipes médicales qui sont arrivées à Rome. La Chine a aussi livré des masques à Rome. Antonino Gallofaro.
Une femme habillée aux couleurs de l'Italie est aidée à se relever par une autre femme portant une robe aux couleurs chinoises. En arrière-plan, la figure de la mort avec sa faux, mais sa tunique n'est pas noire, elle est bleue avec des étoiles jaunes. Il s'agit de l'Europe. Son visage n'est pas un crâne, mais une face énervée avec, comme nez, le symbole de l'euro. Depuis quelques jours, ce dessin tourne sur les réseaux sociaux et dans les messageries. Les Italiens ont le sentiment d'être abandonnés et commencent à voir la Chine comme l'amie salvatrice. Les politiques reprennent déjà ce sentiment, comme le gouverneur de la Ligurie, Giovanni Totti, à mi-chemin entre Silvio Berlusconi et l'extrême droite de Matteo Salvini.
L'Europe est la grande absente. Trois paroles de Mario Draghi avaient sauvé toute l'économie européenne lors de la dernière crise économique. Whatever it takes, nous ferons tout ce qu'il faut pour sauver l'Europe. Cette réponse de l'Europe, aujourd'hui, n'arrive pas.
La Chine semble profiter de la crise pour exercer son soft power sur l'Italie, déjà acquise aux nouvelles routes de la soie, et s'appuyant sur un ministre des Affaires étrangères peu diplomatique. Nous nous rappellerons des pays qui nous ont été proches en ce moment, a lancé dans la semaine Luigi Di Maio, comme une critique aussi envers l'Union européenne.
Antonino Gallofaro à Rome. Le Maroc, qui a suspendu hier les liaisons aériennes et maritimes vers la France, autorise finalement des vols pour permettre aux Français de rentrer chez eux. Des milliers de touristes français étaient bloqués, notamment à Marrakech et Agadir. Aux États-Unis, Donald Trump a proclamé l'état d'urgence national. Le pays compte plus de 2000 cas de contamination et 50 morts. Cette urgence nationale va permettre de débloquer 50 milliards de dollars. En attendant, cette pandémie suscite dans les milieux complotistes américains et sur les médias extrémistes les théories les plus folles. À Washington, Gregory Phillips.
À 83 ans, le Texan Kenneth Copeland est l'un des 10 télévangélistes les plus riches du pays. Et sur sa propre chaîne baptisée Victory News, il promet de soigner du coronavirus à travers l'écran. Posez votre main sur le téléviseur, prêche-t-il, tout en n'oubliant pas, à intervalles réguliers, de lancer un appel aux dons pour sa propre église. Sur Fox News, voici Jerry Falwell Jr., qui préside la Liberty University, l'une des plus grandes universités évangéliques du pays.
On peut quand même se demander s'il n'y a pas un objectif politique derrière tout ça. L'impeachment, ça n'a pas marché. Le rapport Mueller non plus. Et souvenez-vous, le dirigeant nord-coréen avait promis en décembre un cadeau de Noël pour l'Amérique. Peut-être qu'ils se sont unis avec les Chinois, mais que c'est ça le cadeau, je ne sais pas.
Le conspirationniste d'extrême droite, enfin, Alex Jones, soutien de Donald Trump, fait dans son émission radio la promotion d'un dentifrice censé guérir du coronavirus. En vente, $7.47 sur son site. Le procureur de New York l'a immédiatement mis en demeure de cesser ce genre de publicité, l'accusant de jouer sur les peurs des Américains. Washington, Grégory Phillips, France 1.
Et retour en France, un des rares rescapés de ce week-end de sport face au coronavirus, le grand rendez-vous cycliste Paris-Nice. La course devait se terminer demain sur la promenade des Anglais. C'est annulé. Fin de l'épreuve aujourd'hui avec l'étape de montagne de la Colmiane, remportée par Nairo Quintana. Au général, victoire de l'Allemand Maximilian Schachmann, Thibaut Pinot, premier français. Il finit cinquième. Et désormais, Fanny Lechevestrier, beaucoup de questions sur l'avenir de la saison cycliste. Le mythique Paris-Roubaix semble plus que jamais compromis.
Oui, et ce n'est malheureusement guère une surprise, l'enfer du Nord, que seules les deux guerres mondiales ont empêché, aura bien du mal à se courir le dimanche 12 avril comme prévu. Le patron de Paris-Nice, mais aussi de Paris-Roubaix, Christian Prudhomme, l'a clairement laissé entendre pour la première fois ce soir à la Colmiane.
Le cyclisme est comme le reste, tout le sport s'arrête. J'imagine bien que dans les jours qui viennent, pour le mois d'avril en tout cas, les décisions seront les mêmes de la part de l'Union Cycliste Internationale, et des collectivités concernées, des autorités de notre part, ce qui est tout à fait logique.
Est-ce que cela veut dire que vous avez déjà fait une croix sur Paris-Roubaix ?
Non, mais il y a une logique. Ma parole n'a rien d'officiel, mais on voit bien mal comment on pourrait être différent du reste, si on n'a aucune envie d'être différent du reste d'ailleurs.
Déjà ce matin, le Tour des Flandres, autre course historique et mythique, avait dû renoncer après le Giro, le Tour d'Italie hier. Pour le Tour de France, en revanche, impossible encore de se prononcer. L'espoir reste de mise pour juillet.
C'est dans plus de 100 jours. Vous savez, quand les gens vont reprendre une activité normale, et on espère tous, comme chaque citoyen, que ce sera le plus tôt possible, il y aura une frénésie, une envie encore plus forte qu'avant, sans doute.
Une seule certitude, ce soir, les coureurs de Paris-Nice se sont quittés sans savoir quand ils se reverraient et pourraient reprendre la compétition. À la Colmiane, Fanny Lechevestrier, France Inter.
L'ancienne championne de danse sur glace, Nathalie Péchala, élue aujourd'hui nouvelle présidente de la Fédération française des sports de glace. Elle succède à Didier Gaillaguet. Il a dû démissionner début février après un scandale de violence sexuelle dans la fédération. Jérôme Val, pour Nathalie Péchala, maintenant, le plus dur commence.
Nathalie Péchala est seulement la deuxième femme présidente d'une fédération olympique avec l'escrime. Anecdotique, assure-t-elle, même dans le contexte actuel et après les scandales qui ont secoué le patinage, l'essentiel pour elle est ailleurs.
C'est bien aussi d'avoir des anciens athlètes, d'avoir des jeunes, du sang neuf. C'est bien de s'entourer avec des personnes expérimentées qui connaissent bien la maison. L'image de la fédération est abîmée. La fédération elle-même est en souffrance. Donc évidemment, il va falloir travailler dur.
Et travailler avec beaucoup d'acteurs influents du patinage qui se sont rangé derrière elle, comme Brian Joubert, ancien champion du monde.
Elle peut rassembler tout le monde, il va y avoir peut-être moins de guéguerre. Franchement, Nathalie était vraiment, est vraiment la bonne personne.
Elle a la tête sur les épaules, malgré son jeune âge. Maintenant, il n'y a plus qu'à, il y a beaucoup de travail.
Mais cette élection n'a pas été un long fleuve tranquille. Ses adversaires dénonçant un scrutin joué d'avance, comme Damien Boyer-Gibault, qui a retiré sa candidature au dernier moment.
Je pense que c'est une élection qui était, je vais m'avancer un petit peu, mais jouée d'avance. Une candidature qui était voulue. Je pense qu'il y avait une volonté ministérielle de voir une femme et de voir Nathalie à ce poste-là. Je n'ai pas voulu apporter une crédibilité démocratique à quelque chose qui ne l'était pas forcément.
Et à tous ceux qui l'attaquent d'être la marionnette de Didier Gaillaguet, la championne d'Europe de danse sur glace a répondu que c'était mal la connaître et qu'il fallait maintenant la juger sur pièce.
Jérôme Val. Martin Fourcade a fait ses adieux au biathlon aujourd'hui sur une victoire lors de la poursuite de Kontiolahti en Finlande, mais il n'a pas réussi à renverser la situation au classement général. Il termine deuxième de la Coupe du Monde derrière le Norvégien Johannes Bo. Les couleurs du ciel, c'est maintenant.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Voici Jean-Michel Golinski de Météo France.
Demain, du soleil pour les uns, des nuages, parfois de la pluie et de l'orage pour les autres, dans des températures souvent supérieures à celles d'aujourd'hui, avec une hausse d'ailleurs assez sensible dans le quart sud-ouest, où l'air chaud en provenance d'Espagne va donner l'après-midi des pluies d'orage. Elles seront plus marquées en soirée sur le sud de l'Aquitaine. Sur le Languedoc et le Roussillon, là ce sont des nuages véhiculés par un vent de mer sensible qui vont donner un ciel souvent chargé, ponctué de pluies éparses. Sur le quart nord-ouest, une perturbation océane de faible activité va stationner une grande partie de la journée avec un vent vers 60 km/h sur les côtes de la Manche. Dans ce flux de secteur sud-ouest, le ciel sera assez variable au nord de la Seine.